19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
C'est probablement l'un des plus longs titres d'émissions de radio jamais imaginés. Bonsoir Marc Lambron, vous faites partie de la maison Radio Classique car vous intervenez régulièrement dans les grosses têtes de la musique, l'émission Bande à part. Mais ce soir, vous êtes mon invité exclusif pour votre nouveau livre, un récit personnel, intime, intitulé « Le monde d'avant » chez Grasset. Marc Lambron, si je vous dis qu'il est plutôt sain qu'un garçon possédant les mêmes diplômes qu'Alain Juppé ait eu pour unique passion la nuit et le style.
Oui, j'ai lu ça dans une chronique de Frédéric Becbédé pour un de mes précédents livres.
Alors le problème, le problème de Marc Lambron, c'est qu'il est hypermnésique. Et donc, il va probablement réussir le jeu. Deuxième partie de l'émission, il y a un jeu, il faut deviner vos propres citations.
Mais là, je débusque tous les autoplagiats de Frédéric Becbédé.
L'Académie transforme-t-elle les écrivains? Vous êtes entré à l'Académie il y a quelques années. Et au fond, dans votre cas, la réponse est oui. Vous êtes devenu plus sincère, plus personnel. Vous avez basculé dans l'autofiction.
Alors, plusieurs choses. D'abord, quelqu'un disait que l'Académie, après notre mort, parce que les immortels sont mortels, nous transforme en fauteuil. Mais je n'en suis pas encore à ce stade-là. Deuxièmement, je récuse totalement l'idée que ça m'aurait fait muter, parce que j'ai écrit un livre qui s'intitulait « Une saison sur la Terre », qui était un retour sur mon adolescence lyonnaise. J'ai malheureusement écrit un livre sur « Feu, mon frère ».
Tu n'as pas tellement changé,
voilà.
En 2014.
Donc, ça n'est pas l'Académie qui m'a avoué. Et alors, je récuse totalement ce mot d'autofiction que je trouve galvaudé, parce que...
N'est pas de moi, hein, qui est de Serge Dubrovski, et qui est qu'on entend fréquemment sur les...
Attendez, parce que il y a fiction. Alors, par exemple, il y a certains romans de Philip Ross où il se met en scène au milieu de personnages fictifs.
Exact.
Donc là, on est dans la dimension romanesque. Mais on a pris l'habitude d'appeler autofiction ce qu'on appelait autrefois en bon français un récit.
Autobiographie,
récit, oui. Souvenir, oui. Mémoire, confession, comme chez Rousseau. Donc, je ne fictionnalise pas.
Donc, vous préférez, en gros, que je vous compare à Rousseau qu'à Annie Ernaux, et on vous comprend, mon cher Marc Lambron.
Moi, je ne venge pas ma race.
Ni votre sexe. Est-ce que je peux vous faire des compliments ou on va se disputer pendant une heure?
Mon oreille est assez hospitalière, là aussi, au compliment.
Merci beaucoup. Donc, c'est un petit livre, très émouvant, où vous faites, et c'est très surprenant, votre outing de transfuge de classe. C'est pour cette raison-là que je citais Annie Ernaux. Au fond, on s'aperçoit que vous êtes petit-fils d'ouvrier communiste,
oui.
Et on vous prenait pour une sorte de nouveau Paul Morand, errant dans des cocktails mondains. En réalité, vous venez d'un milieu social défavorisé et vous n'en avez pas honte. Est-ce que vous en aviez eu honte autrefois? Je dis ça parce qu'Annie Ernaux a écrit un livre qui s'intitulait « La honte ».
Oui, alors... On va pas faire pleurer Margot. Il y a quand même une différence entre Ernaud et moi, c'est que passer à la fin des années 50 d'une épicerie ou d'une sorte de taverne normande au statut d'agrégé de lettres, elle l'a vécu en première génération à un moment où la société française était tout de même très clivée en castes. Bon, moi en réalité, je suis né à Lyon dans un quartier favorisé, j'étais élève du lycée du Parc, donc je ne vais pas me parer des oripeaux du mérite des autres. Mais il est vrai que ma mère avait pour parents, dans une petite cité ouvrière de la Nièvre, à une douzaine de kilomètres de Nevers...
Qui s'appelle Infi,
capitale des aciers spéciaux. Il y a une forge qui est là depuis le XVIIIe siècle... Et c'était ça reste d'ailleurs un des hauts lieux de la sidérurgie française. On a forgé au 19e siècle un pied de la Tour Eiffel. Et en ce moment même, il y a sur une sonde spatiale qui va vers Mars, des assez spéciaux qui ont été usinés à Infi. J'ajoute aussi dans les usinages particuliers du lieu que, et ça c'est assez regrettable si l'on veut, mais que le grand-père de Bertrand Cantat était le maire d'Infi, Édouard Cantat, mm-hmm. Ancien contremaître. Donc ça a donné un chanteur Noir Désir.
Oui.
Et que la récemment désignée spationaute française, qui s'appelle Sophie Adnaud, Eh bien, son arrière-grand-mère était la marraine de ma grand-mère. Donc,
Ça fait longtemps que vous planez, que vous tournez en orbite.
Voilà, on usine toujours de forts alliages dans cette usine.
Et François Mitterrand, vous avez parlé d'un fil, parce que vous lui avez cité ce village, et il vous a dit « Ah, les hautes cheminées !»
Il me dit « Là où sont les hautes cheminées. »
Voilà. Oui. François Mitterrand avait une phrase par village, par commune française. Il avait 33 000 phrases dans son disque dur.
Surtout dans la Nièvre. Le maire de Château-Chinon, comme vous savez.
Donc on va parler du monde d'avant et de toute votre œuvre pendant une heure, mais il y a des passages musicaux. Vous avez choisi pour commencer la sonatine pour piano de Maurice Ravel, jouée au piano par Samson François, et c'est en 1967.
Thank you.
Alors, Marc Lambron est toujours avec moi chez La Pérouse. Il boit son Bloody Mary qui est assorti à son pullover. Marc, donc c'est bizarre, vous ne portez pas du vert, vous portez du rouge aujourd'hui.
C'est un jour carmin, voilà. Une couleur du vendredi.
Donc, nous parlions du lieu de naissance de vos grands-parents maternels, qui est cette ville d'Infi. Pourquoi maintenant publier un tel texte, qui est un texte très émouvant, très intime? Finalement, à part sur votre frère, vous n'aviez jamais parlé de votre famille.
Si, si, je dis que j'avais parlé de mon adolescence lyonnaise dans un autre livre, qui s'appelle oui. Une saison sur la Terre. Alors, pourquoi maintenant? Certainement pas pour déjouer des images sociales, comme vous le suggériez. Que l'on prenne pour un muscadin à Paris, c'est une chose, on peut être polymorphe, et on peut être pluriel. Pourquoi maintenant? Il y a deux raisons. La première, c'est que c'est un livre qui est très largement issu de conversations avec ma mère, qui va avoir 92 ans dans quelques semaines, avec sa sœur et une de leurs cousines qui sont octogénaires. Donc, alors elles sont toutes hypermnésiques, donc ça tombe très bien.
Comme vous.
Mais il était tout de même expédient, opportun, de recueillir leurs souvenirs, qui ont aidé très largement à tresser ce livre. Première raison. Et la deuxième raison, c'est que je crois que c'est à certains égards un livre d'expérience. Comme disait Malraux, vivre, c'est transformer de l'expérience en conscience. Et j'ai à peu près l'âge aujourd'hui, c'est-à-dire sexagénaire, qu'avait mon propre grand-père quand je le voyais enfant. Donc ça m'a donné, je pense, le passage de ces décennies me donne assez de perspective pour mieux savoir ce qu'est le temps d'une vie humaine, d'une vie d'homme ou d'une vie de femme. Et donc je pense que le livre que sans doute je méditais ou je portais depuis assez longtemps, il y a un son, je ne pense pas que je l'aurais écrit de la même façon à 40 ans.
Je pense quand même qu'il y a une troisième raison.
Donc l'âge du capitaine importe. Alors, allez-y.
La troisième raison, c'est que vous avez envie de parler de ce monde oui. qui nous précède, de cette France qui était plus dure, plus violente, moins confortable, et qui pourtant, pour vous, vous dites, incarne le digne passé. Vous avez une sorte de nostalgie de ce monde d'avant?
Est-ce que j'ai une nostalgie? Bon, je crois qu'il faut vivre avec, comme disait Ortega y Gasset, je suis moi et mes circonstances, donc il faut se frotter, se coltiner au temps où on vit. Mais oui, je me suis demandé, au fond, qu'est-ce qui... Parce que je crois que la figure de ces personnages a un peu fléché ce que j'allais faire par la suite, et qu'il n'y a pas finalement de rupture, en réalité, ou de clivage.
Parce qu'ils avaient une notion du travail dont vous avez hérité.
Ben, ce qui me sans doute, oui. Bah, c'est-à-dire que oui, ils ont. Voilà, c'est la classe ouvrière des années 20, des années 30. Mon grand-père est né en 1902, et pour eux, bon, il y a l'idée qu'il faut pousser les enfants. Je tiens à ce verbe. Oui. Il aura deux filles, et les deux filles vont devenir institutrices et directrices d'école maternelle. Donc, il y a une foi en l'école et dans le mérite. Et finalement, moi, j'ai pas fait autre chose après que de passer des concours de la République pour aller à Normale Sup et passer une agrégation.
Bon. Et Sciences Po et l'ENA.
Et Sciences Po et l'ENA. Mais l'ENA qui n'existe plus, donc on pourra en faire le Requiem, c'est aussi le monde d'avant. Et moi, j'ai pas vu, quand je passais ces concours, de différence substantielle entre le mode d'accès. C'est-à-dire que dans les deux cas, dans tous ces cas, les écrits étaient anonymes. C'est-à-dire qu'on sait pas si c'est un homme, une femme, un provincial, un parisien. Et puis les oraux étaient appréciés collégialement. Bon, donc l'ENA, c'est pas l'école des fils d'archevêques.
Exactement. Alors bon. on accuse toute cette sorte de d'aristocratie des hauts fonctionnaires d'être une élite. Oui, mais c'est une élite finalement égalitariste avec des concours auxquels suffisait de travailler.
Ça s'appelle un concours de la fonction publique et oui, ça reste de l'ordre du mérite.
Donc c'est encore de la démagogie.
Ce qui me frappe dans ce passé, je dirais pas que c'était mieux avant, parce que je vais pas sortir ce violoncelle-là. Par exemple, je vous donne deux points sur lesquels, à mon avis, c'est mieux aujourd'hui. D'abord, le niveau scolaire. Quand ma mère passe le bac en 1949, il y a 3500 habitants dans cette ville. Il y a trois bacheliers, oui. qui sont des bachelières. Ils sont trois filles. Bon, aujourd'hui, évidemment, on peut dire que le bac est dévalué, mais en tout cas, c'est impossible.
Il y a eu un progrès.
Pour l'enseignement supérieur. Bon, à l'époque, c'est le certificat d'études, déjà très bien, et le brevet. Bon. Deuxième chose, c'est, là je mentionne dans le livre, plusieurs accidents du travail, hein, des giclées d'acier, des personnages éborgnés, du manchot, bon, L'église, vous voyez mon lapsus. L'usine existe toujours, mais...
Il y a un peu plus de sécurité.
Et les process industriels, bon. Mais en revanche, ce qui me semble avoir changé, surtout dans une France qui est quand même extrêmement doloriste aujourd'hui, c'est précisément dans des conditions de vie rugueuses, les éthiques personnelles et les attitudes face à la vie. Mmh. Alors en effet, je suis obligé de ressusciter des mots aujourd'hui regardés avec goguenardise. Alors je peux vous les dire, honneur, fierté, ouais. Pudeur, mérite.
Voilà. Et votre grand-mère.
Ce sont des Anglais de la Nièvre. C'est le côté never explain, never complain. Mm-hmm. N'expliquez pas, ne vous plaignez pas. Il y a une sorte de stoïcisme. Et en même temps, ce qui les vaccinait, et ça je l'ai bien vu parce que mon grand-père avait 20 ans quand, j'avais 20 ans quand mon grand-père est mort. Donc j'ai connu ce monde d'avant. Et, ils mettaient leur dignité dans la possibilité du bonheur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans une contingence ou dans une vie matérielle qui peut être difficile, encore qu'elle était très améliorée par les Trente Glorieuses, qu'il faut renoncer aux allégresses que des gens plus luxueusement dotés s'autorisent. Oui. Et donc, je suis désolé de ne pas sortir ma complainte.
Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est l'intérêt de ce livre, d'ailleurs, parce que vous parlez d'un monde parfois très, très, oui, pauvre, cruel, mais vous en parlez avec une sorte d'enchantement. Votre grand-mère disait, vous n'êtes ni plus ni moins que les autres. Et ça fait penser à ce qu'écrit Sartre dans Les Mots,
oui.
Un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. C'est une très belle philosophie qu'elle vous a enseignée. Alors, la différence avec Jean-Paul, c'est que Les Mots, c'est vraiment son outing de bourgeois. Et vous, là, c'est plutôt votre outing de petit-fils d'ouvrier et votre grand-mère qui était femme de ménage. C'est bouleversant, en
c'est
fait.
C'est curieux que vous employiez des métaphores sexuelles pour outer une femme de ménage.
Non, mais de outing est un terme, de toute façon, qui n'est pas reconnu par l'Académie.
Cela dit, en même temps, je pense que ça rejoint quand même une mémoire très, très générale, parce que une société française qui était un pays qui était à 70% rural encore en 1920, vous imaginez bien que... et là, on est dans un monde mixte, parce que c'est étrange, c'est une sorte d'usine à la Jules Verne, mais elle est posée dans un paysage à la George Sand. Donc, il y a un mélange, au fond, d'usages encore ruraux. On le voit pour les obsèques, on le voit. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler une culture ouvrière, qui se marquait, par exemple, par une maxime de mon grand-père qui disait « on a bien le temps de pâlir ». Ça veut dire... Quand on est rouge, comme moi aujourd'hui, le temps va vous amollir, donc restons fermes. Donc il occupe l'usine en 36. Il n'était pas membre du Parti communiste, mais bon, il lisait l'Humanité dimanche, que j'ai lu chez lui, enfant.
Il était clairement engagé.
Mais il y avait une culture de la camaraderie, ce que dans le patois local, on appelait les camaros, et ces hommes à casquette qui athées. Mais lorsqu'il y avait des obsèques, ils n'entraient pas.
N'entraient pas dans l'église.
Dans l'église, ils restaient sur le parvis pendant le temps de la cérémonie, leur casquette à la main, silencieux. Et c'était, je trouve, superbe cet hommage.
Je dois dire que le meilleur dans votre livre, c'est cette description de la vie au bourg, dans les années 30. Ça fait penser à du Marie-Hélène Lafont ou du Pierre Bergougnou. Ne le prenez pas comme une injure, ce sont de grands écrivains. Et on sent cette fierté que vous avez, et puis en même temps, cette... envie de décrire un monde que vous avez un peu connu et qui n'existe absolument plus. Alors, je prends des exemples. Les frites cuites parfois dans l'huile de l'usine.
Oui, absolument. Quand il n'y avait plus d'huile, je ne sais pas quelle marque, le sueur existait déjà.
De tournesol.
Oui. Eh bien, l'huile de machine pouvait servir dans la poêle, oui.
Des femmes avec un renard mort autour du cou, ça j'en ai déjà vu, mais là c'est le putois mort en étole.
Absolument. Avec des petites perles qui étaient logées dans les yeux de l'animal naturalisé.
Le grand-père à casquette. Alors,
On meurt chez soi,
on accouche chez soi. Et il y avait le Bécassin, l'idiot du village, qui disait « C'est bizarre, je bois du vin et je pisse de l'eau ». Pas si bête, finalement, le Bécassin.
Le Bécassin était le fils de la Bécassine. C'est une chose assez importante, c'est les surnoms. C'est un monde des camarades de pêche, parce que voilà, un des grands plaisirs. Un des grands plaisirs vraiment de mon grand-père, c'était la partie de pêche.
Et il pêchait le goujon dans la Loire.
Voilà, le goujon, le cendre. Et alors, il avait des acolytes. Alors, par exemple, l'un s'appelait Falzar, parce que son pantalon tombait. L'autre s'appelait Papillon, parce qu'enfant, un rat lui avait grignoté un bout d'oreille qui ressemblait donc aux dentelures d'une aile de papillon. Il y en a un qui s'appelait 10h10, parce que ses pieds s'ouvraient à la Charlie Chaplin.
Ah oui, oui.
Et mon grand-père était surnommé docteur, parce qu'il y avait un médecin dans la région qui portait le même nom de famille, Denis.
Alors, on boit du vin au maître.
On l'achète au maître, oui.
Ça fait rêver. Bon, le laitier ambulant, ça j'ai connu dans ma petite enfance à Guétari. Les confitures maison aussi. Finalement, oui, c'est quand on sent moins la pauvreté qu'aujourd'hui, puisqu'il y a le potager, il y a les légumes, les fruits qui sont dans le jardin. Donc finalement, ça, c'est vrai que ça limite cette impression de douleur qu'on peut avoir peut-être davantage aujourd'hui.
Mais ça, c'est ce qui reste de la culture et de la vie rurale. J'ai remarqué d'ailleurs en écrivant ce livre que quand vous allez dans les gares de la Nièvre, il y a encore des anneaux de fer à l'extérieur des gares. Eh bien, c'est parce que les architectes du 19e siècle prévoyaient qu'un paysan pouvait venir avec une vache ou avec un cheval et pouvait l'attacher pendant qu'il attendait ses amis. Mais vous me disiez oui sur le...
Bah, je dis, on est quand même loin des 4 tomes de vos carnets de balles, quoi.
Ah, on est loin des tomes. Non, mais je voulais vous dire autre chose. Je ne sais plus. Ah oui, sur les parties de pêche. Sur le jardin, l'importance du jardin.
Ah, mais bien sûr.
C'est-à-dire que, évidemment, alors.
Refusez que je vous compare à Marie-Hélène Lafont.
En plus, on traverse la guerre. Comment s'appelle l'homme des vies minuscules? Pierre Michon.
Non. Pierre Michon, bien sûr, bon. Voilà. Vous êtes le Pierre Michon de l'Académie française.
Mais allons-y, il y a eu un Pierre Michon plus éminent que Pierre Michon et que moi, qui s'appelait Maurice Genevoix, qui est un homme des bords de Loire. Et il y a eu Émile Guillaumin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est pas l'Académie, qui a écrit La vie d'un simple. Voilà, il y a une littérature de la Bourgogne, en tout cas. Et Daniel Sanna, aujourd'hui l'Académie française, oui. Représente tout à fait. Elle m'a écrit un dictionnaire amoureux de la Loire, si je ne me trompe.
Donc vous allez vous rendre hommage.
Le jardin, ce que j'ai vu, c'est que mon grand-père, le jardin était à la fois vivrier et ornemental. Et que c'est comme une sorte d'autoportrait. Mmh. Alors c'est vivrier parce que, oui, il y a les carottes, les pommes de terre, les tomates, les fruits. Donc ça nourrit, comme la pêche nourrit. Et ma grand-mère disait à son mari, Pierre va chercher le dîner. Les poissons nous sauvent. Bon. Mais en même temps, ce jardin, au fond, tout jardin, c'est une sorte d'Éden personnel. Et mon grand-père l'avait constellé de roses, de zinnias, qui en faisait un lieu assez enchanteur et probablement son lieu dans le monde. Je crois qu'il avait dessiné son enclos. Il avait dessiné cette espèce d'autoportrait. Et pour moi, c'est l'homme du jardin. Et ses voisins étaient aussi des passants du jardin.
Alors, j'ai choisi un chapitre que j'ai beaucoup aimé, qui est page 80, que je vais vous demander de lire. Mais d'abord, je veux préciser qu'il y avait quand même des épouses à Infi qui prenaient le train pour aller se prostituer dans un bordel à Nevers. Franchement, on savait vivre. Alors, donc vous allez lire maintenant la page 80.
Évidemment, ça ne m'étonne pas que vous ayez... Mais oui, il y a quelques passages grillards. Enfin, en tout cas, cet endroit n'échappait pas à la sexualité générale. Donc, il y a quelques anecdotes, oui.
Nous sommes deux berlots, mais nous ne sommes pas des ganivelles.
Oui.
Traduisez.
Bah, le berlot, c'est quelqu'un qui parle à travers.
C'est nous.
C'est un nous berlotons. Mais des ganivelles, c'est des personnes plutôt méchantes.
Voilà. Et c'est pas nous,
vous n'êtes que bienfaisance. Alors, comme les sociétés du même nom. Donc vous voulez que je lise cette longue page, deux pages qui ne sont qu'une phrase.
Mais c'est vous l'auteur et j'aime entendre la voix des écrivains dans cette émission.
Bon, alors c'est Joyce chez les Six Compagnons, non, quelque chose comme ça. Alors, été des années 60, pays de l'étrange bonheur, époque d'enfanson libérée des fatalités proches, famille involuée en escargot, fantôme conjuré de la guerre, récit tu ou transmis. Projection mentale dans les romans d'autrefois, je lisais Paul Féval et Victor Hugo. Paris comme la ville lointaine des conjurations et des misérables. La France du général et de Léni Escudero.
Des déesses Léni Escudero, on a oublié Léni Escudero.
Comme une amourette. Et des bidonvilles. Aube radieuse sur les cités nouvelles. Passage ennuagé de nounours et du marchand de sable. Conscrit au bal du samedi soir et Catherinette coiffée. Apothéose d'Astérix, Douleur des rapatriés, 12 voix de Françoise Hardy, cinéma avec court-métrage et actualité, cerise sapide sur les marchés, télévision en noir et blanc, Jean-Luc Godard et ses lunettes noires, bikini sur les plages avec Tépaz, Jean Noël et sa moustache, le pont de Tancarville et les caravelles dans le ciel.
Ah, j'ai connu les caravelles.
Lents après-midi sous une ombre d'avant, porte-drapeau à béret devant les monuments aux morts, accent rocailleux de Jacques Duclos, twist et collant orange, intrigue des six compagnons et du club des cinq, boucherie chevaline et kiosque à journaux, le jour le plus long et la grande badrouille, ombre portée des guerres et des héros, Malraux devant le Panthéon, passage des nuits sans alerte, sentiment de la vastitude du monde, astronaute en orbite et starlet sur la croisette. Je ne sais comment les hommes d'autrefois habitaient ce temps, les silences de mon grand-père ne m'en ont pas donné la clé, ni le vent qui passait sur les hivers, ni le soleil qui écrasait les campagnes, et les éclats de lumière que l'aube réveillait sur un pays d'ancienne mémoire.
Voilà, ce pays d'ancienne mémoire. Alors, vous n'êtes pas en train d'écouter Radio Nostalgie. Je signale que vous êtes en train d'écouter Radio Classique. Mais c'est vrai que c'est votre livre le plus pudique et impudique à la fois. C'est très, très émouvant. Je vous sens d'ailleurs ému en lisant ce passage.
Enroué.
Vous dites à un moment, et d'ailleurs j'aime beaucoup cette phrase, « Je paie ma dette. Le petit garçon qui regardait est devenu l'homme qui se souvient. » Voilà. Bon, écoutez, on va tout de suite envoyer le deuxième morceau que vous avez choisi pour vous permettre de récupérer.
Enfin, vous avez écrit un roman français qui est aussi
tout à fait,
une réédition de dette.
C'est pour ça que je suis touché par ce monde d'avant chez Grasset. Et vous avez donc choisi En bateau, c'est logique, sur ce fleuve, le premier mouvement de la petite suite de Claude Debussy, orchestre symphonique de Détroit, dirigé par Paul Paré en 1959.
Thank you.
Marc Lambron, je suis absolument navré, mais je sais que vous êtes petit-fils d'ouvrier communiste, et pourtant je dois envoyer la publicité. C'est ça, c'est le monde.
Bonjour, c'est Alain Duhau. Avec Radio Classique à bord d'un yacht ponant au design raffiné, je vous propose de visiter les sublimes fjords de Norvège, de Honfleur à Bergen, avec Pascal Amoyal et Shani Di Luca au piano, Anna Goeckel au violon, Emmanuel Bertrand au violoncelle, et les voix de Herménie Blondel et Julien Dran pour explorer les romantismes du Nord. En mai, on fait ce qui vous plaît.
Réservez votre croisière Ponant Radio Classique au 04 91 300 888 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage.
Björk, en tournée en France. La chanteuse islandaise est de retour pour 3 concerts exceptionnels en 2023. À Paris, à l'Accor Arena, à Nantes et Bordeaux. Björk en tournée en France. Le 8 septembre à Paris, à l'Accor Arena. Le 2 décembre à Nantes au Zénith et le 5 décembre à Bordeaux à l'Arkéa Arena. Location aagpresents.fr et point de vente habituel.
Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Je suis toujours avec Marc Lambron chez La Pérouse. Nous sommes vautrés dans des canapés décadents et nous allons maintenant passer à la rubrique que vous préférez tous. Le grand jeu devine tes citations. Alors avec Marc Lambron, c'est particulier puisqu'il est hypermnésique, il se souvient de tout. Et donc j'ai volontairement choisi des phrases difficiles à deviner.
Voilà. Parce que il va me ridiculiser, très bien.
C'est ça, c'est tout à fait le but.
Oui.
Alors première phrase, donc vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit ceci. Chacun se croit toute sa vie appelé devant le tribunal de sa propre enfance.
C'est pas dans celui-là, à mon avis.
Non, mais ça pourrait.
Mais c'est... Je dirais, tu n'as pas tellement changé. Est-ce que je me trompe ?
Mais c'est l'œil du silence.
Ah, merde.
Mais ça montre que, déjà, vous aviez cette thématique d'aller chercher dans l'enfance tel un psychanalyste, tel comme, Marcel Proust.
Comme dit Morand, que vous citiez. Mais il l'a dit dans son grand âge. Je ne savais pas que j'avais le cœur autant fait pour regretter.
C'est très joli. Deuxième phrase. Une passion française peut dormir sans se perdre. Un amour espagnol ne peut sommeiller sans finir.
Bon, ça c'est premièrement l'impromptu de Madrid.
Mais oui, l'impromptu de Madrid. Je me disais, parce que j'avais beaucoup aimé le livre à sa sortie, je me demandais ce que vous imaginiez devant vous à l'époque. Vous n'étiez même pas encore au Conseil d'État.
Si, quand je viens d'arriver. Oui, qu'est-ce que j'imagine, vous voulez dire,
je peux vous dire. Est-ce que vous imaginiez ce que vous alliez vivre, c'est-à-dire finalement une grande carrière d'écrivain qui se termine à l'Académie?
Non, mais c'est un livre qui a été... Alors comment dire? C'est comme une carte de visite, un premier roman.
C'est vrai.
Et alors, il se trouve que, le hasard d'un stage d'une année à l'ENA, où on m'avait envoyé à l'ambassade de France, fait que je coïncide en 1983 avec la Movida, qui était une chose totalement inaperçue à ce moment-là. Oui, je fréquentais Almodovar, qui était encore employé des PTT espagnols, de la Telefónica. Il n'avait pas assez d'autonomie financière, il avait fait deux films déjà, bon... Et donc, deux ou trois ans plus tard, je fais ce premier roman.
Vous avez eu de la chance d'arriver dans la ville la plus festive de l'univers, à l'époque.
J'avais raté la Dolce Vita en 1960, parce que j'étais trop petit.
Le palace, 78.
Oui, ça, j'ai passé ma vie au palace.
Grâce à votre frère.
Pendant l'été 78, non, grâce à moi. J'avais passé ma première année normale sup le soir au palace, le printemps. Mm-hmm. Et alors, pour raconter cette Movida, qui éveillait quand même, en effet, chez moi, des souvenirs, alors des réminiscences purement culturelles, c'est-à-dire, si vous voulez, le Montparnasse des années 20,
oui.
Un peu de la Factory de Warhol.
Années 70,
oui. Ces années Palace aussi, au studio Fusion. Bon. Et alors, presque techniquement, j'avais choisi de revenir stylistiquement au Morand des années 20, au Morand d'Ouvert la nuit, de Fermer la nuit, qui est un roman d'Octambule, qui est un Morand cosmopolite européen.
Merci. Vous avez donné des lettres de noblesse au fêtard.
Et en même temps, je vais vous faire plaisir, c'est que j'avais lu juste avant, enfin à ce moment-là, chez Bourgois, un de vos auteurs cultes, peut-être même je l'ai lu avant vous.
Moins que zéro de Bret Easton Ellis.
Moins que zéro de Bret Easton Ellis, bon. Donc, je me rendisais, et j'élicisais, si j'ose dire, et ça donnait cette sorte d'étrange image de synthèse, qui fait que le livre a été remarqué.
Bien accueilli, oui.
Il est très bien accueilli, parce que, comme avait dit quelqu'un que vous connaissez, il ressuscite une région inhumée des lettres françaises. Voilà. Oui. Donc c'était une. Il y a presque un choix technique, parce qu'au fond, écrire, vous le savez bien, c'est toujours le choix d'une focale,
et d'une forme,
et d'un style, et d'un mode d'écriture. On peut écrire plus ou moins sec, plus ou moins lyrique.
Et c'est vrai. Voilà. Que c'était... Et donc c'était en 1988.
Oui.
Alors troisième phrase à deviner. J'espère avoir travaillé comme je le devais. Il faut aimer ce qui fut et affirmer ce qui vient.
Ouh là là.
C'est pas mal, hein.
C'est pas dans celui-là non plus. C'est un peu des phrases gnomiques, comme on dit, des phrases de vieux sages grecs.
Oui, c'est un aphorisme. Il faut aimer ce qui fut et affirmer ce qui vient. Ça, c'est d'ailleurs cohérent avec également Le Monde d'avant, oui, votre dernier livre. Oui.
J'ai dit ça dans un roman, aidez-moi.
Non,
pas.
Non, c'est pas un roman.
Ça sort de quoi? D'un essai, peut-être?
Oui,
d'un
essai.
D'un carnet de balles, quelque
chose. Carnet de balles.
J'ai carnet de balles, donc.
Numéro 2.
Voilà. Bon.
Bravo. Alors, est-ce que vous estimez que vous avez fini ce travail ou qu'il vous en reste, aimer ce qui fut et affirmer ce qui vient?
Bah, écoutez, j'espère que le débat sur la retraite en ce moment,
vous avez moins de 64. Vous les avez déjà?
Non, je les ai.
Aïe. Faut arrêter de travailler.
Ce que j'allais vous dire, c'est que. Pour les métiers de vocation, mettons le métier, même pas un métier, les activités de vocation, si vous dites un écrivain, si vous dites un compositeur, si vous dites un peintre, si vous dites un acteur qui doit arrêter à 62 ou à 64 ans, c'est la destitution. Donc les attitudes vis-à-vis du travail, du temps de travail, du temps choisi sont très différentes, évidemment, selon ce qu'on a fait.
Donc, cela dit, il existe des écrivains qui font leurs adieux, et comme Philip Roth, qui a dit, quelques années avant de mourir, il a dit, ben, ça y est, j'ai fini. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire, hein, ne le prenez pas mal.
Je vous remercie, mon cher Frédéric, de ne pas travailler à l'assèchement de
vous avez bien travaillé.
De ma citerne.
Bon, on continue le jeu.
Oui.
Les fratries sont le pays du malentendu.
Bon, ça, c'est le livre sur mon frère.
Tu n'as pas tellement changé.
Oui,
c'est vrai. En 2014, livre très, très émouvant. Sur votre frère cadet, Philippe. Et moi, je suis le frère cadet. J'ai eu un frère aîné qui s'appelle Charles. En lisant ce livre, je me disais, Charles a dû avoir la même impression que vous de ne pas tout à fait comprendre son petit frère, le pauvre. Et je plaignais mon frère aîné en lisant votre livre. C'est un très beau livre sur ce que c'est que d'avoir un petit frère.
Oui. Ben, quand on connaît votre frère, il y a des raisons de le plaindre, en effet. Donc, je ne vais pas vous démentir.
Oui, mais je vois que vous n'avez pas trop envie de vous étaler sur ce livre. C'est un livre vraiment très beau sur donc Philippe qui est mort du sida le 17 juillet 1995, avant midi.
C'est une sorte de requiem, voilà. Et, voilà, c'est des livres de. Ce sont des livres qu'on n'aurait pas eu envie d'écrire. Et où il y a une nécessité de les inscrire parce que voilà pour la moi je suis assez obsédé par ça par la trace par le nom propre.
Oui. Et on peut pas faire autrement. C'est impossible de ne pas l'écrire. C'était un livre qui était nécessaire comme on dit aujourd'hui dans les émissions de France Culture.
C'était comme un fixatif sur un portrait sur une photo qui menaçait de devenir sépia ou de s'estomper. Mm-hmm. Donc voilà le nom. Et ce livre-là aussi, finalement, c'est exactement la même chose. Une manière de.
Oui.
Et les photographies que je fais sans cesse, c'est pareil.
C'est une sorte de.
C'est de constituer une sorte de fond d'archives sans Instagram.
Donc, au fond, vous croyez qu'écrire, c'est éterniser le fugace.
Ça, c'est beaucoup dire. C'est un poète de la Renaissance, vous l'aurez dit comme ça. Mais je crois que, plus humblement, quand on écrit, on a tout de même la névrose de ce qui reste ou de ce qui peut rester. Après tout, sur chaque pierre tombale, il y a un nom propre. Et même si dans, je sais pas, 70 ans, j'ai un arrière-petit-fils ou petite-fille qui ouvre un livre, qui dit, même un drôle de type, qu'est-ce que c'était que ça? Comment ça marchait? Oui. Comment ça? Bon, ben, il aura des propositions, il aura des vestiges de ce qu'était précisément le monde d'avant, qui est celui d'aujourd'hui, le nôtre.
Maurice Jaubert est votre troisième choix.
Ah oui.
C'est la suite française, Vals Intermède, dans la bande originale du film L'Histoire d'Alel H, de François Truffaut, en 1975.
Je vous en parlerai après, si vous voulez. Thank you.
Alors justement, Marc, puisque vous voulez parler de Jobert, qui est Maurice Jobert et pourquoi ce choix ?
Maurice Jobert, 1900-1940, niçois, musicien classique, mais compositeur de musique de film. Et le premier, le plus éminent avant-guerre. Il était proche de Jean Vigo, niçois comme lui, donc il a fait les musiques des deux films, des deux grands films de Jean Vigo, et ensuite la musique des films de Carnet. Et il est mort au champ d'honneur, il a été tué en 40, voilà. Et Truffaut, qui a toujours été lui aussi un cinéaste de la dette, a fait réenregistrer les musiques de Maurice Jobert, notamment pour la, la Chambre verte. Et voilà.
Et là, c'est l'histoire d'Adélache.
Et je l'ai choisi. Et également l'histoire d'Adélache. Il a fait les deux. Et je l'ai choisi des musiques aujourd'hui que mon grand-père aurait pu entendre ou a entendu en son temps.
On le verra avec votre quatrième choix bientôt. Un mot sur la mort de Philippe Tesson, qu'on vient d'apprendre là, pendant que nous sommes en train d'enregistrer. Et c'est quelqu'un que moi j'ai beaucoup aimé, bien connu, puisqu'on faisait ensemble une émission sur Paris Première, Rive Droite, Rive Gauche, où il s'occupait du théâtre et moi des livres. Avec Elisabeth Quin qui faisait le cinéma, c'était quelqu'un de très très joyeux, très pétillant. Vous l'avez bien connu aussi.
Il y a pas si longtemps, il galvanisait les matinales de Radio Classique.
De Radio Classique, tout à fait.
Il était un invité intervenant régulier. Alors lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui aura connu le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Il avait 94 ans. Il était sidérant de lire toutes les semaines sa chronique de théâtre dans le Figaro
Magazine.
Le Figaro Magazine, où vous officiez aussi. Parce que il y avait une passion. Les critiques de théâtre, c'est un peu des orpailleurs, hein. Ils ont leur tamis et ils cherchent des pépites. Et Tesson, était d'une flamme. En même temps, c'était, vous le connaissez, connu, un polémiqueur, un bretteur.
Ouais.
Pouvait être assez vachard et assez drôlement vachard.
Oui.
Dernière conversation que j'ai eue avec lui, il me demandait un peu consterné pourquoi est-ce que j'allais si peu au théâtre. Et j'ai fait une réponse de vieux. C'est-à-dire que je lui ai dit que, ayant connu dans les années 70 des mises en scène de Chéreau, de Planchon, de Streller, de Bob Wilson, etc.
Il y avait plus, c'était plus le même niveau.
Et de vitesse, c'était plus haut niveau. J'avais fait une réponse de prof et il en était assez d'accord. Enfin, ça ne l'empêchait pas de courir les
châteaux
et de diriger lui-même, enfin, en tout cas d'avoir d'avoir confié à sa fille Stéphanie la direction d'un théâtre.
Pourquoi est-ce qu'il n'était pas à l'Académie, Philippe Tesson? Il aurait dû être à l'Académie.
Parce qu'il ne s'est pas présenté.
Oui, oui. Alors, qui envisagez-vous pour... Il y a 5 fauteuils vacants. Marc Lambron, vous êtes académicien. Moi-même, j'ai été un candidat malheureux. Je suis curieux de savoir qui arrivera là où moi j'ai échoué.
Ben, le fauteuil est d'ailleurs toujours vacant. Donc,
Jean-Loup Dabadi.
Nous allons procéder le 9 mars, si je ne me trompe pas, à la troisième élection. Ça bégait pas mal sur ce fauteuil. Je ne sais. Alors,
succéder à Jean-Loup Dabadi est impossible. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Est irremplaçable.
C'est très difficile. Je dois dire qu'il n'y aurait pas disconvenu de vous voir y arriver.
C'est gentil.
Bon, alors là, un autre dabadien s'est déclaré, à ses risques et périls, c'est Éric Neuf.
Ah bah donc, ça serait formidable.
Nous verrons bien. Oui. Bah, cinéma.
Croisons les doigts.
Cinéma.
Bien sûr. Un critique de cinéma éminent au Masque et la Plume.
Et voilà, et Nostalgie française, et le monde de Sautet.
Il a écrit aussi un livre qui s'appelait La séance du mercredi.
Oui. Puis il a écrit un livre aussi, un pamphlet très acide sur le cinéma français d'aujourd'hui.
Oui.
Et Eric, qui vit un peu avec un rétroviseur, je crois, plus que moi, donc ça le destine au futur de l'Académie.
Comment voyez-vous, Marc Lambron, vous êtes également critique littéraire, comment voyez-vous l'état de la littérature contemporaine? Je me suis amusé à faire des catégories, donc vous n'allez pas aimer, hein, mais je dirais que... Bon, dans la catégorie entre guillemets autofiction, même si on peut l'appeler autrement, récit intime, si vous voulez, vous en avez 2 ou 3 qu'on a cité déjà. Dans la catégorie exofiction, c'est-à-dire les romans sur des personnalités réelles.
Oui.
Là, vous avez L'œil du silence avec cette extraordinaire biopic de Lee Miller, si vous voulez. Dans le domaine de la fresque, vous avez donné 1941.
Oui, Vichy, où il y a aussi des personnages réels, un mélange entre fiction et voilà.
Le petit roman de Hussard, autre catégorie, Là, il y avait L'impromptu de Madrid, de votre premier roman.
Le deuxième, qui s'appelait La Nuit des Masques.
La Nuit des Masques. Alors, en revanche, vous n'avez jamais donné dans la catégorie la plus à la mode et la plus vendeuse.
Le petit pamphlet, je vous signale.
Vous avez fait des. Oui.
Ségolène Royal, Sarkozy.
Petit pamphlet.
Sur la mode, Théorie du chiffon. Ben, je fais le.
D'accord, vous avez raison, on finit la nomenclature.
C'était pour moi-même, comme disait Norman Mailer.
Oui. Mais vous n'avez quand même pas donné dans le genre qui domine aujourd'hui, le feel-good book avec victimisation suivie de résilience. C'est un peu dommage.
Bah, c'est-à-dire que ma condition d'hétéroplouc me colle un peu trop quand même au corps. Donc je manque. Et puis alors là, pour le coup, je retombe sur la pudeur héritée.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'exhibition des stigmates que parfois on invente, le dolorisme publicitaire,
le misérabilisme.
Le misérabilisme vendeur. Là,
vous refusez. Vous refusez à cela parce que vous sentez.
Je n'ai pas de mal à le refuser. Je veux dire, ouais. Je suis mes influx, voilà. J'ai pas lieu de larmoyer en plus.
Votre Pierre Denis, votre grand-père, a un fils sur les bords de la Loire, vous regarde et peut-être est fier de. Parce qu'il n'a pas vu tout ça, il n'a pas vu que vous avez fait l'ENA, il n'a pas vu que vous avez publié des livres, que vous êtes entré à l'Académie, il n'a pas vu tout ça. Vous avez fait tout ça sans avoir la reconnaissance de votre grand-père.
Oui, non, ça n'aurait pas les plus, parce que, comme il disait dans le patois, le vieux Marc, il va bien y arranger. Ça veut dire, le petit garçon, il va faire des choses. Mais il m'a vu... Alors, si on se tient l'ordre du bon élève, des médailles du bon élève, il m'a vu le reste du concours général, il m'a vu mention très bien au bac, il m'a vu entrer à Normale Sup. Il est mort l'année où j'entrais à Normale.
Oui.
Donc,
bon, ça va.
Il y a eu...
Ça va.
Voilà, il savait, je répète, que ses descendants ne seraient pas de la même classe sociale que lui et son épouse. Et je crois que ce qu'il craignait, c'est d'être renié. Et il ne l'a certainement pas été.
Non.
Ni par la relation de ses enfants, ni par celle de ses petits-enfants.
Et encore moins dans ce livre. Quatrième choix musical, alors une chanson que votre grand-père a certainement écoutée souvent, c'est Mon amant de Saint-Jean.
1941, Lucienne de Lille.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, il l'aimait tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Repris dans le dernier métro, Truffaut aussi.
Marc Lambron, nous avons dans cette émission une rubrique intitulée Biographème. Oui. C'est un terme qu'employait Roland Barthes pour définir ses aspérités, les petits détails.
Je ne vous l'aurais pas dit. Je suis assez vieux pour avoir assisté à son séminaire.
Vous avez assisté au séminaire, je le sais, de Roland Barthes. Et j'ai essayé de lister les étiquettes qu'on vous colle. Vous me dites lesquelles vous gardez ou vous enlevez. Mm-hmm. Le mondain brillant.
Ah bah, ça, c'est les, comment dire, c'est la sculpture sociale, c'est la légende de surface.
Non, mais vous aimez bien sortir.
Et j'ai jamais, j'ai jamais pris la peine de les démentir. Donc, allez-y.
Oui.
Le mondain.
Alors,
qu'est-ce que c'est qu'un mondain? C'est quelqu'un qui, c'est quoi, qui vit,
je n'en sais rien.
Qui vit dans le monde.
Oui, qui aime bien.
On ne sait pas trop.
Donc, ce n'est pas un ermite.
Non, ce qui est certain, c'est que je ne me suis pas lassé du côté félinien de Paris.
Oui.
Alors ça, quand vous êtes provincial, pourtant je viens d'une métropole quand même, qui est Lyon. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé il y a une quarantaine d'années à Paris, j'ai tout de suite senti ce qu'on pourrait appeler le pouvoir multiplicateur d'une ville-monde, où il y a 20 villages qui chacun sont des microcosmes, ou des propositions quand même très, très diverses, très, très polymorphes. Et c'est vrai qu'il y a le côté Luna Park, pour moi, de Paris, un Luna Park social.
Je ne suis
pas encore lassé.
On garde cette étiquette.
Alors allons-y.
Oui, l'énarque énervant.
L'énarque énervant. Ça, c'est marrant parce que, alors, vous savez que les énarques sont morts maintenant, donc on peut.
Oui.
Maintenant, on va les regretter, vous allez voir.
Oui,
c'est
sûrement.
C'est le monde d'avant.
Vous serez culte un jour.
Je vous remercie de mettre un TE à la fin. Et l'énarque énervant. Alors, on dit jamais le normalien savant, comme par hasard.
Non.
Ou l'agrégé, lettré. Non, évidemment.
Ce sont des étiquettes. Hein.
Le propre de l'étiquette,
voilà. c'est de se tromper.
Non, c'est sa malveillance.
Oui.
Donc,
alors, je continue. Le Lyonnais monté à la capitale, un peu comme un héros de Balzac.
Alors, je vous remercie de cette référence. Enfin, c'est un peu partout. C'est dans Stendhal, c'est dans Barrès, c'est toute l'histoire du roman français et du roman depuis au moins le 19e siècle.
Bon, celle-là, c'est votre préférée, je le sens.
Oui.
Merci beaucoup, Marc Lambron, d'avoir accepté de dialoguer une heure. C'est passé en 5 minutes. C'est dommage, mais vous reviendrez. Vous écrivez un autre livre et vous revenez, c'est simple.
Heureusement, je suis sur Radio Classique
oui.
Dans 2 jours, dimanche à 19h.
On peut vous entendre dimanche à 19h dans Les Grosses Têtes. Alors, merci à toute l'équipe. Philippe Gault pour la production, Matteo Catizone Berardi à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. Vous entendez les glaçons du Bloody Mary de Marc Lambron qui est quasiment fini. Quasiment fini. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le journal du classique. Bon week-end à tous. Et la semaine prochaine, nous recevons un prix Nobel de littérature, JMG Le Clésio.
Grand bien vous fasse.